Studio Tamani, voici les informations en français.
Il est 8h à Diré, dans la région de Tombouctou, même heure sur l'ensemble de nos radios partenaires. Auditeurs, auditrices, bonjour et bienvenue à la synthèse de l'actualité matinale. Voici les titres. Les membres du Conseil national de transition passent de 121 à 147. Des politologues soulignent que ce changement va calmer les ardeurs de certains. La montée du fleuve Niger est constatée au centre et au nord du pays. À Mopti et à Diré, dans la région de Tombouctou, les riverains et les autorités se disent préoccupés par la situation. Dans ce journal, nous allons parler de la récolte collective dans les champs. Cette pratique connue des agriculteurs au centre et au sud du pays est un cadre de cohésion sociale. À la présentation, Mariam Maïga, la mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Le Conseil national de transition CNT a 26 membres de plus. Le décret de nomination de ses membres additifs du CNT a été publié vendredi dernier. L'organe législatif passe ainsi de 121 membres à 147. Plus de détails avec Adama Amadou Haïdara.
Ce décret de désignation signé par le président de la transition entre dans le cadre de la refondation des Assises nationales de la refondation. Parmi les 26 nouveaux entrants dans le Conseil national de transition figurent des anciens ministres et députés, des représentants de la société civile, des acteurs culturels, des membres des organisations des jeunes, des femmes, des enfants, entre autres. Cette nouvelle augmentation du nombre de membres de l'organe législatif de la transition fait suite à la révision de la charte de la transition au Mali, approuvée en février 2022. Dans cette révision, il était prévu d'élargir le CNT afin que tous les acteurs de la société y soient représentés. Rappelons que le CNT, dans sa composition initiale, a été critiqué par des partis politiques. Ces derniers ont dénoncé la répartition, selon eux, inégale des sièges à son sein.
Sur le même sujet, selon Balanja Kité, analyste politique, ce changement n'aura pas d'impact sur le plan politique. Il trouve que cette liste additive des membres du CNT vise plutôt à calmer ceux qui se sont sentis exclus dans sa composition précédente. Balanja Kité, politologue, est joint par Adama Hamadou Haïdara.
Le rôle du CNT est très bien défini. Il s'agit bien évidemment de légiférer sur les questions législatives. Et donc, dans ce sens-là, ça n'aura aucun impact majeur sur la situation politique actuelle. Seulement, peut-être une composition que l'on fait pour redorer, bien évidemment, la zone du CNT, qui n'a pas manqué d'être critiquée ici et là depuis sa position. Ça ne va rien changer. Le CNT, comme tout organe législatif, a certainement un règlement intérieur et les nouveaux membres seront obligés de s'adapter au contenu de ce règlement intérieur. Nous sommes dans une situation de crise généralisée. Les membres du CNT, ils puissent mettre la pression sur le gouvernement pour que le gouvernement puisse accompagner les populations.
Rejoignez la communauté Studio Tamani en laissant vos critiques et suggestions sur notre page Facebook ou encore sur Twitter. À Ansongo, un chauffeur a été tué le samedi suite à une embuscade tendue par des hommes armés sur des motos contre l'escorte des camions en provenance de Labezanga. L'attaque s'est produite à Bentia, un village situé à 55 km de la ville d'Ansongo. Partons à Diré où la montée du fleuve Niger se poursuit. Après l'inondation survenue dans la localité vendredi dernier, la commune de Bourem-Sidi est aussi touchée par le phénomène. Les autorités locales demandent de l'aide aux bonnes volontés. Les détails avec Halima Yattara.
Nous sollicitons l'aide des personnes de bonne volonté car cette situation nous dépasse. Se lamente la troisième adjointe au maire de la commune de Bourem-Sidi, Nia Kalassi Abdoulaye.
Cela fait trois semaines que les jeunes du village travaillent tant bien que mal pour trouver une solution à la situation. Le village est entouré par l'eau. Nous n'avons reçu aucune aide jusque-là.
Au même moment, les autorités du cercle de Diré affirment avoir reçu la visite des responsables de l'ONG Solidarité. Baba Abadjité, premier adjoint au maire de la commune de Diré.
Nous avons demandé au moins 30 voyages de sable et prévoir la manœuvre de 30 manœuvres à raison de 3 000 francs. C'est le souci de tout un chacun à Diré.
À noter qu'aucune perte en vie humaine ni des dégâts matériels n'ont été enregistrés. Mais les autorités communales invitent les populations à la prudence.
S'agissant toujours de la montée des eaux, mais cette fois-ci, aussi dans la Venise malienne. La situation hydraulique de la situation de Sofara sur le Bani et celle de Mopti sur le Niger est suivie quotidiennement. Le niveau de l'eau relevé sur le Niger et le Bani à Mopti est supérieur à celui de ces 4 dernières années, a indiqué la direction de l'hydraulique de Mopti. Un reportage de notre envoyé spécial à Mopti, Intala Agbilal.
La direction régionale de l'hydraulique souligne que les mesures réalisées au cours de ces derniers jours à Mopti dépassent largement la moyenne enregistrée dans la région depuis une cinquantaine d'années. Sadio Touré, chef de division inventaire et gestion des ressources en eau à la DRH de Mopti.
À la date d'aujourd'hui, le niveau d'eau à la station de Mopti est de 6,74 m sur le Niger-Bani, tandis que sur le Bani à Sofara, c'est 6,73 m. Depuis 1967, on n'a jamais atteint ces niveaux-là.
Les débordements du fleuve causés par cette crise ont causé d'importants dégâts chez les riverains à Mopti comme au Guelde. Ces derniers réclament le soutien des autorités régionales et leurs partenaires.
L'eau entre dans les domiciles, les gens prennent les seaux d'eau pour l'évacuer. Là où nous sommes, il n'y a pas de place. Certains passent la journée et la nuit dans les pirogues.
En attendant, les autorités locales invitent les riverains à s'éloigner le plus tôt possible des cours d'eau pour éviter tout désagrément. De Mopti, Intala Agbilal pour Studio Temani.
Restons donc à l'intérieur du pays pour parler de ce fait de société. La récolte collective est une action connue par des agriculteurs au centre et au sud du pays. En cette période, les villageois s'unissent comme un seul homme pour s'entraider à faire la récolte. Pour eux, c'est un symbole de geste social entre les différents paysans dans les villages. Un reportage de Sita Sidibé.
À Badiangara, dans le centre du pays, la récolte collective est une occasion pour les uns et les autres d'enterrer la hache de guerre, explique Zakaria Banou, cultivateur à Badiangara.
Son importance est que dans les villages, tout le monde est paysan et au moment de la récolte, le nombre de bras valides ne sont pas égaux dans les familles, ce qui fait que les villages s'organisent à récolter les champs les plus vastes.
La pratique est toujours d'actualité dans la région de Kita aussi, affirment des paysans. Pour eux, du début des semences à la récolte, les travaux champs sont faits en groupe.
Depuis le début des saisons pluvieuses, on s'entraide pour travailler nos champs jusqu'à maturité des récoltes.
On le fait toujours. C'est un geste social pour nous. Chacun le fait volontairement.
À noter que cette entraide permet à des milliers de familles n'ayant pas de bras valides de pouvoir récolter leurs champs au temps souhaité, estiment certains agriculteurs.
Pendant ce temps, au centre du pays, 2 hectares de champs de riz ont été brûlés le 30 octobre dernier par les hommes armés non identifiés dans le casier rizicole de Bokiwere à 20 km de Kolongo, dans le cercle de Massina. Ces champs sinistrés appartiennent aux exploitants agricoles du village de Wela, commune de Kolongo. Sur les réseaux sociaux, un tweet indique que les autorités maliennes souhaitent le retour de la force Barkhane au Mali. C'est faux, répond le ministre malien des Affaires étrangères. Fatoumata Koudjo a vérifié cela pour nous.
Effectivement, sur ce post de Gauthier Pasquet sur Twitter, on peut lire « La junte de Bamako appelle à dialoguer avec Paris et sollicite le retour assez rapide de la force Barkhane sous certaines conditions ». Cette publication a été faite le 26 octobre et le tweet a été partagé plus de 100 fois. Après vérification, les autorités de la transition estiment que c'est faux. En réalité, tout ce qui vient de Gauthier et de l'intox, affirme le ministère malien des Affaires étrangères. Il faut souligner que le chef de la diplomatie malienne Abdoulaye Diop a plutôt parlé de restauration des relations avec la France et non des retours de la force Barkhane. C'était lors de la 8e édition du Forum international de Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique tenu du 24 au 25 dernier.
À présent, cap sur la rubrique rétro, faisons plutôt la rétrospective de l'actualité de la semaine avec Kwanjara.
Mariam, on commence le résumé de l'actualité par les inondations dans la ville de Diré. Les populations de Diré se sont réveillées jeudi dernier les pieds dans l'eau suite à une montée croissante des eaux du fleuve Niger. Selon les autorités, l'ensevelissement de la digue de la ville construite dans les années 1961 a favorisé l'écoulement des eaux. Il y a aussi les travaux de restitution de l'avant-projet de la nouvelle constitution qui sont en cours au niveau des capitales régionales et du district de Bamako. L'actualité de la semaine dernière, c'est aussi les délaissages auxquels plusieurs localités font face ces derniers temps au centre et au nord du pays. À cette occasion, une jeune ville morte a été décrétée mardi passé à Menaka. Les responsables de EDMSA se disent conscients du problème. Enfin, Mariam, nous terminons cette rubrique par le rapport de l'ONG Human Rights Watch sur la situation sécuritaire au Mali. Elle a indiqué dans son rapport publié la semaine dernière que près de 1500 personnes ont été tuées dans les régions de Menaka et de Gao depuis mars 2022.
Merci beaucoup Kwan Diarra et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. C'était à la présentation Mariam Maïga. La mise en onde est assurée par Mamadi Keïta. Ne décrochez pas car juste après le magazine, vous aurez la version en Bambara avec Juliette Koulibaly. Au Mali, le secteur de l'exploitation minière artisanale occupe une place importante dans l'économie. L'orpaillage est fait sur plusieurs sites, notamment à Kenyeba ou à Kalana, dans le cercle de Yanfolila. Toutefois, les conséquences restent énormes sur la santé humaine, mais aussi celle de l'environnement et des ressources naturelles, préviennent des environnementalistes. Le magazine Parlons de l'environnement s'est intéressé au sujet, une réalisation de Mahaman Babakunta.
L'orpaillage artisanal est bien développé au Mali. Il est pratiqué dans les régions du sud. Plusieurs raisons poussent les populations vers cette activité. Parmi elles, la pauvreté, déclare l'environnementaliste Soumana Koulibaly.
Historiquement, le Mali est un pays de production d'or. Depuis le temps des empires, l'orpaillage traditionnel existe. Donc, les artisanaux ont hérité ça de leurs grands-parents et la pratique a existé depuis longtemps. Et il y a aussi la raison économique qui fait que la ressource minérale rapporte plus d'argent, de liquidité aux intéressés et plus que les autres activités agricoles.
Cette exploitation minière artisanale constitue une source significative de revenus pour de nombreux Maliens. À Yanfolila, dans la région de Bougouni, nombreux sont ces jeunes qui exercent cette activité. Parmi eux, Basidiki Diarra, il nous explique les raisons qui l'ont poussé vers l'orpaillage artisanal.
J'ai dû abandonner l'école à cause de la pauvreté. J'ai dû faire l'orpaillage pour que mes frères ne subissent pas le même sort. Et j'en ai tiré profit grâce à Dieu.
Kensa Sidibé est mère de 5 enfants. Elle exerce ses métiers depuis plusieurs années. Malgré quelques difficultés, elle dit parvenir aujourd'hui à subvenir à ses besoins grâce à cette activité.
Tout travail a ses difficultés, mais j'ai connu des jours heureux grâce à Dieu. J'ai pu construire, acheter une moto et aider ma famille grâce à l'orpaillage.
Toutefois, Kensa Sidibé souligne aussi que l'orpaillage comporte d'énormes inconvénients, notamment sur le mariage des jeunes filles.
Nos filles développent des mauvais comportements sur les sites d'orpaillage. Cela impacte négativement nos familles ainsi que toute la société. Mais on peut aussi préserver sa dignité si on vit à la sueur de notre front.
Mais la coordinatrice du projet secteur science à l'UNESCO, Sally Togora, souligne que la majorité des sites miniers sont contaminés. Elle ajoute que l'exploitation minière artisanale contribue à la déforestation et à la dégradation des sols.
Il y a de l'extraction qu'ils font dans les cours d'eau. Donc, ils utilisent des produits chimiques qui contaminent la nappe phréatique. Et aussi, il y a les qui n'utilisent pas les dragues, mais qui creusent. Et ce qui se passe, c'est que souvent, ils viennent dans cet endroit, ils creusent. Et quand ils voient qu'il n'y a plus d'or, ils quittent, ils vont dans un autre endroit. Souvent, les animaux tombent dans ces trous et souvent même, ça peut causer des accidents aussi au niveau des communautés.
Sur le plan sanitaire, cette activité peut engendrer des maladies respiratoires comme la toux, la pneumonie ou l'angine, souligne Dr Amadou Diallo, médecin à Kenyeba. Il souhaite que des campagnes de sensibilisation soient menées sur les risques et dangers des produits utilisés par les orpailleurs.
En réalité, la vapeur de mercure peut être transportée par l'air, sont inhalées à 80% par l'utilisateur même, qui vont brûler l'or avec le mercure. Et ceux qui sont à côté, ils seront tous contaminés.
Ainsi prend fin ce numéro du magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mahaman Babakunta avec la contribution des correspondants des studios Tamani. Merci de l'avoir suivi. À la semaine prochaine.